Chapitre 9. À l'exemple de Justinien, Théodora avait peu de scrupules dans l'emploi des moyens et dans le choix des individus. Elle ne regardait pas à la valeur morale du serviteur, pourvu qu'il servît bien. C'est ainsi que l'impératrice s'était attachée à Antonina, la trop fameuse femme de Bélisaire. Ce grand capitaine qui, en ces temps où les barbares combattaient avec des masses de 100 000 hommes, ne voulait leur opposer que de petites armées, de soldats disciplinés et aguerris, et qui était presque toujours vainqueur, n'avait qu'un défaut, ou plutôt qu'une faiblesse, son amour pour une femme indigne. Antonina était fille d'un énioque, cocher de cirque. Ce n'était point là un déshonneur, puisqu'on érigeait des statues et qu'on dédiait des vers à ces triomphateurs de l'hippodrome, mais elle avait été, disait-on, fille perdue, et elle était femme adultère. D'ailleurs, cette Antonina était habile aux intrigues, de bons conseils, vaillante même devant l'ennemi. Elle accompagnait Bélisaire aux armées, où, le bruit en courait, elle lui avait donné souvent d'utiles avis. Théodora avait d'abord repoussé les hommages d'Antonina. Elle lui témoigna soudain beaucoup de faveurs, la comblant de présents et la nommant surintendante de la garde-robe. C'est que la tyrannie ne va pas sans le soupçon. Les grands succès militaires de Bélisaire, sa popularité dans l'armée et dans le peuple, inquiétaient les souverains. On avait bien fait un César d'un grossier soldat comme Justin. Ne pouvait-on pas faire un empereur d'un conquérant comme Bélisaire ? D'autre part, se priver de ses services était dangereux, car il fallait compter avec les Goths, avec les Perses, avec les Vandales, avec tous les barbares qui menaçaient les frontières. Or, dans l'étrange ménage de Bélisaire et d'Antonina, l'impératrice avait trouvé une sauvegarde, un moyen de gouvernement. En s'attachant à Antonina, Théodora s'attachait Bélisaire, et par Bélisaire, elle tenait Antonina à sa discrétion. Aider la femme à cacher ses désordres, c'était gagner son dévouement. Posséder son secret, c'était s'assurer sa fidélité. Au reste, Théodora n'eut garde d'abuser du pouvoir qu'elle avait ainsi acquis sur Bélisaire. Le général fut plusieurs fois relevé de son commandement pour divers motifs, souvent pour recevoir un commandement plus important. Mais les deux disgrâces qu'il subit, et dont l'une dura plus de 8 années, furent toutes deux postérieures à la mort de Théodora. Dès que Justinien régna seul, d'autres capitaines remplacèrent à la tête des armées Bélisaire oublié. Il fallut l'arrivée des barbares sous les murs de Constantinople pour rappeler à l'empereur que le vieux soldat existait encore. Quand Bélisaire commandait en Perse, l'impératrice le fit, dit-on, relever de son commandement. Voici à quelle occasion. Justinien était gravement malade. Le bruit de sa mort se répandit dans l'armée d'Orient. Des rapports, vrais ou faux, accusèrent Bélisaire d'avoir dit que l'armée n'accepterait pas le nouveau souverain qui serait intronisé à Constantinople. L'impératrice, qui pensait peut-être que son titre d'Augusta et d'associée à l'Empire lui assurerait le trône si elle devenait veuve, ou du moins lui permettrait de désigner le successeur de Justinien et de régner avec lui, s'offensa de ce propos et fit rappeler Bélisaire à Byzance. Mais peu de jours après son arrivée, elle lui faisait donner le commandement des armées d'Italie. Seulement, afin d'attacher davantage Bélisaire à Antonina et Antonina à elle-même, elle persuada le stratège que c'était à l'intercession de sa femme qu'il devait son pardon. Saint Sabas, renommé par ses miracles, refusa de demander à Dieu de donner un fils à Théodora. « Elle ne pourrait mettre au monde, dit-il, qu'un ennemi de l'Église. » Si, d'après les paroles de Saint Sabas, on pouvait montrer dans Théodora une libre penseuse, ou tout au moins une païenne, à la façon de l'empereur Julien, ce serait aujourd'hui la meilleure des apologies. Malheureusement, Théodora ne fut qu'une hérétique, ce qui lui a aliéné et les philosophes et les orthodoxes. L'impératrice suivait l'hérésie d'Eutychèse, condamnée par le concile de Chalcédoine en 451. Théodora était monophysite. Elle croyait à une seule nature en Jésus-Christ. Au VIe siècle, cette secte dominait encore dans les provinces orientales de l'Empire et, à Constantinople même, elle avait de nombreux adhérents. Entre eutychéens et orthodoxes, l'animosité était presque aussi ardente qu'entre bleus et verts. « Le père chasse le fils, dit la chronique pascale, et la femme abandonne l'époux. » Une collision terrible ensanglanta Alexandrie. À la suite d'un tremblement de terre qui semblait un avertissement de Dieu, le peuple s'ameuta dans les rues de Constantinople en criant « Brûlez les actes du Concile !» Théodora ne cessa point de lutter pour le triomphe de sa croyance, mais si grand que fut son ascendant sur Justinien, l'empereur qui, devenu vieux, devait encourir le reproche d'hérésie, resta jusqu'après la mort de Théodora inflexible en son orthodoxie. Il déférait sur tous les points à la décision des évêques de Rome. Après l'élection de chaque nouveau pontife, il lui envoyait sa profession de foi et recevait en retour la bénédiction apostolique. À force d'intrigues, l'impératrice réussit quelquefois à faire nommer patriarches ou évêques des représentants de la doctrine d'Eutychès, Sévère, Anthime, Théodose, Nierces. Mais sur les injonctions pontificales, ils ne tardèrent pas à être dépossédés de leur siège. Théodora ne s'avoua pas vaincue. Elle conçut l'idée d'agir au foyer même de l'orthodoxie. L'heure était propice. Bélisaire occupait Rome et Antonina s'y trouvait avec lui. Le général, obéissant aux ordres de l'impératrice transmis par Antonina, exhorta le pape Silvère à condamner le concile de Chalcédoine. S'il s'y refusait, son successeur était tout prêt, un diacre ambitieux nommé Vigile, qui avait naguère promis à Théodora de casser les décrets synodaux. Silvère résista. Il fut déposé et exilé en Lycie. Vigile, élu à sa place, commença à tenir ses promesses en envoyant des lettres de communion aux évêques hérétiques. Justinien, cependant, ayant appris ces événements, donna l'ordre que Silvère fût ramené à Rome et rétabli dans son pontificat. Mais le nouveau pape, averti à temps, se saisit de son prédécesseur et le fit interner dans l'île de Portia, où il le laissa mourir de faim. L'histoire a durement reproché à Théodora d'avoir fait déposer le pape Silvère, mais elle n'a point pensé à accuser Vigile, qui occupa 18 ans la chaire de Saint-Pierre, et que l'abbé Fleury appelle le très pieux pontife, de l'avoir à peu près fait assassiner. L'impératrice Théodora mourut en 548, au mois de juin. Elle avait régné 21 ans. Son nom donné à plusieurs cités, des statues élevées par le peuple, des inscriptions placées dans les églises, glorifièrent sa mémoire. Victor de Thunes, qui ne pouvait pardonner à l'hérétique et à la persécutrice d'un pape, écrivit que le cancer dont elle fut atteinte était un châtiment du ciel. Mais Théophane dit qu'elle mourut pieusement, et Paul le Silentiaire la met au rang des saintes. L'éloge n'est point seulement excessif, il porte à faux. Ce n'était point une sainte résignée qu'il fallait pour compagne à Justinien, c'était une femme d'âme virile qui lui communiqua son courage et sa fermeté. Théodora n'eut aucune des vertus d'une sainte, elle eut plusieurs de celles d'une souveraine. Mais les vertus gouvernementales n'allèrent pas chez elle sans les défauts et les vices qui en sont parfois les conséquences. Magnifique, elle fut prodigue. Habile, elle fut perfide. Autoritaire, elle fut tyrannique. Ambitieuse, elle fut sans scrupules et sans pitié. Que la destinée garde les peuples des Théodorins, mais qu'elle les donne parfois aux empires. Le jour de la révolte des Nicates, une sainte se fut embarquée avec son époux déchu du trône. Ce jour-là, Théodora rappela l'empereur, les magistrats, les généraux, au premier des devoirs d'État, la résistance à l'émeute. Décembre 1884, janvier 1885.